71 son zèle pour ses clients. Son zèle et sa fidélité envers ses clients éclatèrent même dans sa jeunesse. Il défendit Macinta, jeune homme d'une naissance distinguée, contre le roi Yemsal, et avec tant d'opiniâtreté que, dans la chaleur de la discussion, il saisit par la barbe Yuba, fils de ce roi. Après le jugement qui déclara son client tributaire d'Yemsal, il l'arracha des mains de ceux qui l'entraînaient et le cacha longtemps dans sa maison. Enfin, lorsqu'il partit pour l'Espagne à l'issue de sa prêture, il l'emmena dans sa litière sous la protection de ses licteurs et des nombreux amis qui lui faisaient cortège. 72. Son dévouement à ses amis. Il traita toujours ses amis avec des égards et une bonté sans borne. Iaius Oppius, qui l'accompagnait dans un chemin agreste et difficile, étant tombé subitement malade, César lui céda la seule cabane qu'ils trouvèrent et coucha en plein air, sur la dure. Quand il fut parvenu au souverain pouvoir, il éleva aux premiers honneurs même des hommes de la plus basse naissance. Comme on le lui reprochait, il répondit publiquement « Si des brigands et des assassins m'avaient aidé à défendre ma dignité, à eux aussi je témoignerai la même reconnaissance. » 73. Sa facilité à pardonner les outrages. Jamais d'un autre côté, il ne conçut d'inimitié si forte qu'il ne les abjura volontiers dans l'occasion. Gaius Memmius l'avait attaqué dans ses discours avec une extrême véhémence, et César lui avait répondu par écrit avec autant d'emportement, mais il l'aida plus tard, de tout son crédit, dans la poursuite du consulat. Gaius Calvus, qui l'avait accablé d'épigrammes diffamatoires, cherchant à se réconcilier avec lui par l'entremise de ses amis, César, par un généreux mouvement, lui écrivit le premier. Il avouait que Valerius Catulus, dans ses vers sur Mamua, l'avait marqué d'une flétrissure ineffaçable. Et pourtant, quand le poète s'excusa, il l'admit le jour même à sa table. Il n'avait même pas interrompu les relations d'hospitalité qui l'unissaient au père du poète. 74. Sa douceur, même dans la vengeance. Il était fort doux de nature, même dans ses vengeances. Quand il eut pris à son tour les pirates dont il avait été prisonnier, et auxquels il fit alors jurer de les mettre en croix, il ne les fit attacher à cet instrument de supplice qu'après les avoir fait étrangler. Il ne voulut jamais se venger de Cornelius Fagita, qui lui avait tendu toutes sortes d'embûches, à l'époque où, pour échapper à Sylla, il était obligé, quoique malade, de changer toutes les nuits de retraite, et qui n'avait cessé de l'inquiéter qu'au prix d'une forte récompense. Il pouvait livrer à d'affreux tourments Philémon, son esclave et son secrétaire, qui avait promis à ses ennemis de l'empoisonner. Il se contenta de le faire mourir. Appelé au témoignage contre Publius Clodius, qui était à la fois accusé du sacrilège et convaincu d'adultère avec Pompeia, sa femme, il affirma ne rien savoir, quoique sa mère Aurélia et sa sœur Julie eussent fidèlement déclaré au même juge toute la vérité. Et comme on lui demandait pourquoi donc il avait répudié Pompeia, « C'est, dit-il, parce que je veux que les miens soient aussi exempts de soupçons que de crimes. » 75. Sa clémence et sa modération. Mais c'est surtout pendant la guerre civile et après ses victoires qu'il fit admirer sa modération et sa clémence. Pompée avait dit qu'il tiendrait pour ennemis ceux qui ne défendraient pas la République. César déclara qu'il regarderait comme amis les indifférents et les neutres. D'autre part, il autorisa tous ceux à qui il avait donné des grades à la recommandation de Pompée à passer dans l'armée de son rival. Au siège d'Ilerda, il s'était établi entre les deux armées des relations amicales à la faveur des négociations entamées par les chefs pour la cette place. Afranius et Petreius, abandonnant tout à coup ce projet, firent massacrer ceux des soldats de César qui se trouvèrent dans leur camp, mais cet acte de perfidie ne put le déterminer à user de représailles. À la bataille de Pharsale, il cria « Qu'on épargne les citoyens !» Et n'y eut pas un soldat à qui il ne permit de sauver dans le parti contraire qu'il voudrait. On ne voit pas non plus qu'aucun de ses ennemis ait péri autrement que sur le champ de bataille, excepté Afranius, Faustus et le jeune Lucius César. Encore ne croit-on pas qu'ils étaient tués par ses ordres. Et cependant, les deux premiers s'étaient armés contre lui, après en avoir obtenu leur pardon, et le troisième avait fait cruellement périr, par le fer et par le feu, les esclaves et les affranchis de son bienfaiteur. Il avait égorgé jusqu'aux bêtes achetées par César pour les spectacles de Rome. Enfin, dans les derniers temps, César permit à tous ceux à qui il n'avait pas encore pardonné de revenir en Italie et d'y exercer des magistratures et des commandements. Il releva même les statues de Lucius Sylla et de Pompée que le peuple avait abattues. Apprenait-il qu'on méditait contre lui quelques projets sinistres et qu'on en parlait mal? Il aimait mieux contenir les coupables que de les punir. Ainsi, ayant découvert des conspirations et des assemblées nocturnes, il se borna pour toute vengeance à déclarer par un édit qu'il était au courant. À ceux qui le critiquaient avec aigreur, il se contentait de donner en pleine assemblée le conseil de ne pas continuer. Il souffrit même, sans se plaindre, qu'Aulus Cecina déchira sa réputation dans une libelle des plus injurieux et fit à Laus dans un poème des plus diffamatoires. 76. Son orgueil, son despotisme l'emporte néanmoins dans la balance des actions et des paroles qui prouvent chez lui l'abus de la toute-puissance et qui semblent justifier sa mort. Non content d'accepter des honneurs excessifs, comme le consulat prolongé, la dictature et la censure des mœurs à perpétuité, sans compter le prénom d'Imperator, le surnom du père de la patrie, une statue parmi celles des rois, une estrade dans l'orchestre, il s'offrit encore qu'on lui en décerna qui dépasse la mesure des grandeurs humaines. Il eut un siège d'or au Sénat et dans son tribunal. Il eut dans la procession du cirque un char et un brancard sacré. Il eut des temples et des autels, et des statues auprès de celles des dieux. Comme eux, il eut un lit de parade. Il eut un flamine. Il eut des luperques. Et enfin, le privilège de donner son nom à un mois de l'année. Il n'est pas de distinction qu'il ne reçut selon son caprice, et qu'il ne donne de même. Consul pour la troisième fois et pour la quatrième, ils n'ont pris que le titre, se contentant d'exercer la dictature qu'on lui avait décernée avec ses consulats. Et ces deux années-là, il désigna deux consuls suppléants pour les trois premiers mois. Dans l'intervalle, il n'assembla les comices que pour l'élection des tribuns et des édiles du peuple. Il établit des préfets, propréteurs, pour administrer en son absence les affaires de la ville. Un des consuls étant mort subitement la veille des calendes de janvier, il revêtit de cette magistrature vacante, pour le peu d'heures qui restait, le premier qui la demanda. C'est avec le même mépris des usages consacrés qu'il attribua des magistratures pour plusieurs années, qu'il accorda les insignes consulaires à 10 anciens prêteurs, qu'il fit entrer au Sénat les gens qu'il avait gratifiés du droit de cité, et même de quelques Gaulois à demi-barbares, qu'il donna l'intendance de la monnaie et des revenus publics à des esclaves de sa maison, qu'il abandonna le soin et le commandement des trois légions laissées par lui dans l'Alexandrie à Rufion, fils d'un de ses affranchis et l'un de ses mignons. 77. Orgueil de ses discours. Il lui échappait publiquement, comme l'a écrit Titus Ampius, des paroles qui ne marquaient pas moins d'orgueil que ses actes. Il disait que la République était un mot sans réalité, sans valeur, que Sylla ignorait jusqu'au principe de la science du gouvernement, puisqu'il avait déposé la dictature, que les hommes devaient lui parler désormais avec plus de respect et regarder comme loi ce qu'il dirait. Il en vint même à ce point d'arrogance de répondre à un Arupis qui lui annonçait des présages funestes et qu'on n'avait pas trouvé de cœur dans la victime, que les présages seraient plus favorables quand il voudrait. Ce n'est point un prodige si une bête n'avait pas de cœur. 78. Son mépris pour le Sénat. Mais voici ce qui attira sur lui la haine la plus violente et la plus implacable. Les sénateurs étaient venus encore lui présenter une foule de décrets des plus flatteurs. Il est reçu assis devant le temple de Vénus Génétrix. Quelques écrivains disent que Cornelius Balbus le retint quand il voulut se lever. D'autres, qu'il n'en fit même pas le mouvement, et que Gaius Trébastius, l'ayant averti de se lever, il jeta sur lui un regard sévère. Ce dédain parut d'autant plus intolérable que lui-même, dans un de ses triomphes, avait manifesté une vive indignation de ce qu'au moment où son char passait devant les sièges des tribuns, seul, dans tout le collège, Pontius Aquila fut resté assis. Il s'était même écrié « Tribun Aquila ! Redemande-moi donc la République !» Et pendant plusieurs jours, il n'avait rien promis à personne qu'en y mettant cette condition. Si toutefois Pontius Aquila le permet. 79. Tentatives qui sont faites pour le nommer roi. À ce cruel outrage fait au Sénat, il ajouta un trait d'orgueil encore plus odieux. Il rentrait dans Rome, après le sacrifice des féeries latines, lorsque, au milieu des acclamations excessives et inouïes du peuple, lorsqu'un homme se détachant de la foule, alla poser sur sa statue une couronne de laurier, nouée par devant d'une bandelette blanche, les tribuns de la plèbe, Epidius Marullus et Cesetius Flavius, firent enlever de la bandelette et conduire l'homme en prison. Mais César, voyant avec douleur que cette allusion à la royauté eut si peu de succès, et comme il le prétendait qu'on lui eût ravi la gloire du refus, apostropha durement les tribuns et les dépouilla de leur pouvoir. Jamais il ne put se laver du reproche déshonorant d'avoir ambitionné le titre de roi. Quoiqu'il eût répondu un jour au peuple qui le saluait de ce nom, « Je suis César et non pas roi !» Et qu'au fait lupercale, il eût repoussé et fait porter au Capitole, sur la statue de Jupiter, très bon et très grand, le diadème que le consul Antoine essaya à plusieurs reprises de placer sur sa tête dans la tribune aux harangues. Bien plus, différents bruits coururent. Il devait, dit-on, transporter à Alexandrie ou à Troie les richesses de l'Empire après avoir épuisé l'Italie par des levées extraordinaires et laissé à ses amis le gouvernement de Rome. On ajoutait qu'à la première assemblée du Sénat, le quindécémire Lucius Cotta devait proposer de donner à César le nom de roi, puisqu'il était écrit dans les livres sibyllins que les Parthes ne pouvaient être vaincus que par un roi. 80. Conjuration tramée contre lui. Disposition du peuple. Les conjurés, craignant d'être obligés de donner leur assentiment à cette proposition, y virent une raison de hâter l'exécution de leur entreprise. Ils se réunirent donc tous et mirent en commun des résolutions jusqu'alors distinctes et qui n'avaient été conçues que dans les réunions de deux ou trois personnes. Le peuple même était alors mécontent de la situation de l'État. Il laissait voir en toute occasion sa haine pour la tyrannie et demandait des libérateurs. Quand César admit des étrangers au Sénat, on placarda l'affiche « À tous, salut, que personne ne montre au nouveau sénateur le chemin du Sénat. » On chanta aussi dans les rues de Rome « Après avoir triomphé de Gaulois, César les fait entrer à la curie. Les Gaulois ont quitté leur bray pour prendre le laticlave. » Au théâtre, le licteur, ayant annoncé, selon l'usage, l'entrée du consul Quintus Maximus, que César avait nommé suppléant pour 3 mois, on lui cria de tous côtés qu'il n'était pas consul. Après la destitution des tribuns Cassius et Marullus, on trouva à la première assemblée des comices, beaucoup de bulletins qui les nommaient consuls. On écrivit sous la statue de Lucius Brutus « Plût au Dieu que tu vécus !» et sous celle de César « Brutus, pour avoir chassé les rois, a, le premier, été fait consul. Cet homme, pour avoir chassé les consuls, a finalement été fait roi. » Le nombre des conjurés s'élevait à plus de 60. Gaius Cassius et les deux Brutus, Marcus et Decimus, étaient les chefs. Ils délibérèrent d'abord si, divisant leurs forces, les uns le précipiteraient du pont pendant les comices du Champ de Mars et au moment où ils appelleraient les tribuns au suffrage, tandis que les autres l'attendraient en bas pour le massacrer, ou bien s'ils l'attaqueraient dans la voie sacrée ou à l'entrée du théâtre. Mais une réunion du Sénat ayant été annoncée pour les ides de mars dans la curie de Pompée, ils s'accordèrent tous à ne point chercher de moment ni de lieu plus favorable.